Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Nouvelle saison, nouvelle semaine de la loi des séries pour passer en revue l'actualité des séries. 26 minutes de face à face avec celles et ceux qui font l'actualité. Cette fois-ci, on repart du côté de Ciné Plus OCS Signature pour découvrir évidemment leur dernière série née de ce laboratoire d'expérimentation en termes de fiction où il se passe plein de choses, on le sait, depuis maintenant une quinzaine d'années. Et on se plonge dans cette série qui a commencé là, cette semaine. C'était mardi, c'était sur Ciné Plus OCS donc, et ça s'appelle Deep.
Les Boches ont mis au point une machine infernale. Une puissance de feu inédite, mais surtout indétectable.
À vos ordres, mon général.
Vous y connaissez en sous-marin, lieutenant? Je veux que vous montiez une équipe. On a choisi les meilleurs pour vous. La crème de la crème.
Kidnapper des nazis, braquer des banques, ok, mais là, conduire un sous-marin, je sais même pas nager.
Bienvenue dans la résistance.
C'est pas des trucs bizarres. Même si on était coincé
dans une boucle. Pourquoi vous allez pas me gifler parce que vous êtes complètement con. Je savais pas que ça faisait ce bruit-là quand ça tombait, ça.
Ça doit être ça, là, je suis du 3ème Reich.
Voilà, et pour parler de cette ovni, hein, littéralement, parce que des séries comme ça, il n'y en a pas forcément beaucoup à la télévision, malheureusement, je suis ravi d'accueillir le créateur, scénariste et réalisateur de la série, Aurélien Molas. Bonsoir Aurélien, ça va bien ?
Ça va très bien.
Bon, quelques jours là, on est la semaine de lancement de Deep. Il faut dire que pour celles et ceux qui ne le savent pas, ça fait déjà un petit moment que la série est tournée et elle est terminée, donc ça fait pas loin de 2 ans maintenant. Je disais, c'est un ovni. Est-ce que tu es d'accord avec cette description pour qualifier Deep vraiment un ovni sériel, quelque chose de différent ?
Ah, totalement. Objet visuel non identifié, ça me va très bien comme définition. Et c'était l'enjeu et c'était le but dès le départ, en fait, de faire une série qui sorte un tout petit peu des sentiers battus, tout en étant extrêmement référencée aussi.
Aller récupérer un sous-marin nucléaire pour essayer de le retirer d'une arme secrète des nazis, potentiellement capable de prouesses qui là l'ordre du côté de la science-fiction, clairement, avec ces possibilités, pourquoi pas, de boucles temporelles, de voyages dans le temps, avec une bande de mercenaires qui se retrouvent là où ils n'auraient pas dû être, parce que évidemment ils sont pas les génies qu'on pensait qu'ils seraient. Moi, ça, évidemment, je suis obligé de te poser la question, mais moi qui ai été qui ai grandi avec OCS Signature, qui a adoré ses laboratoires et qui a adoré ce qu'il en a fait, notamment quelqu'un comme Samuel Bodin avec la Lazy Company, forcément que ça me convoque des souvenirs en ayant un résultat ultra différent, mais on est sur cette génération là.
Totalement. Et puis, je suis un grand admirateur de la Lazy Company. J'aime beaucoup. Ça m'a fait marrer. Il y avait d'autres séries laborantines comme ça, dans un autre registre. Je pense à France-Québec, qui, moi, m'avaient marqué par leur ton, leur liberté. Mais la Lazy Company, pour moi, a toujours été un degré en fait, de niveau technique, visuel et d'atmosphère. Un peu supérieur à tout ce que j'avais vu et ce que j'ai pu voir sur OCS. Et je trouve que ça soit Samuel Bodin, ses scénaristes, les acteurs. Et j'ai toujours rêvé que si un jour il y avait, je ne sais pas, plusieurs saisons de Deep, un jour j'arrive à négocier un crossover où ils finissent par se rencontrer.
Ça, je pense que ça devrait pouvoir, ça aurait pu être possible. À mon avis, les connaissant, ils ont l'appétit de redonner vie à un moment donné, je pense, leur série initiale. C'est quand même quelque chose de particulier d'aller proposer à une chaîne de télévision en 2026 une série qui va être en noir et blanc. Déjà, parlons de cette gageure de départ, parce que c'est déjà ce qu'il ne faut pas faire en général. Quand je dis qu'il ne faut pas faire, c'est qu'on se dit que c'est le code de ce qui rebute les chaînes.
En fait, oui, totalement. Et la série n'a... était en développement, et quand j'ai annoncé que je voulais la tourner en noir et blanc, et il a failli avoir un arrêt en fait de la série. Et je crois que j'ai eu une chance incroyable, c'est que au même moment Canal+ rachetait OCS, enfin rachetait Orange, et du coup il y a eu un trou dans la raquette en termes de ligne éditoriale. Donc les anciens dirigeants partaient, les nouveaux n'étaient pas encore arrivés, et en fait la série était validée. Et du coup, hop, je me suis lancé, je me suis faufilé en fait à ce moment-là en termes de production. Et la chance qu'il y avait, c'est que le noir et blanc, c'était à la fois un choix économique et esthétique. Ce que j'ai expliqué, c'est que pour arriver à l'ambition visuelle que je souhaitais, en tout cas en couleur, là, ça aurait nécessité des moyens financiers, et en particulier en déco, sur de l'époque, qui auraient été exorbitants.
Ça,
Alors que le
ça,
noir et
ça,
blanc,
le noir et blanc permet de tricher un petit peu.
Totalement. Totalement, parce qu'en fait, c'est même en termes de colorimétrie, en fait, la question ne se pose plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que de l'ombre et de la lumière. Là, par exemple, les couleurs des vêtements, etc., sont complètement dépareillées, parce que ce qui importe, finalement, c'est comment ça rend, quelle est la texture du gris, etc. Ce qui fait que on n'a plus besoin d'essayer de tout ou repeindre ou refaire, etc., etc. Et après, il y a l'aspect esthétique, et ça, je le dois au chef opérateur qui a réussi à retranscrire un noir et blanc comme je l'avais rêvé.
Un peu à la Robert Rodriguez, évidemment, on pense aussi à Sin City, le film qui est sorti maintenant il y a quelques années avec notamment Bruce Willis, Jessica Alba, pour ne citer que cette espèce de dichotomie entre le noir et blanc avec un style très léché, l'incursion de temps en temps de la couleur ici ou là pour donner un ton et une image assez radicale au film ou ici à la série.
Oui, bah, y a Sin City et même plus particulièrement, en fait, c'est Rusty James de Francis Ford Coppola,
Ouais.
où il y a un moment suspendu dans le film où les personnages en fait regardent un aquarium, donc le film est en noir et blanc, et les poissons sont rouges. Et en fait, c'est venu de là, et le contraste de couleurs, qui a d'ailleurs influencé aussi Rodriguez quand il a fait Sin City. Voilà, je suis parti là-dessus en me disant que ça allait être chouette de pouvoir mélanger par moments des touches de modernité, en particulier sur des effets un peu complexes, comme bah, par exemple le poisson, s'il était que en noir et blanc, il aurait été moins visible. Hein, pareil pour les explosions. Donc en fait, comme la série s'est faite à la bidouille, les choix esthétiques sont venus appuyer des questions économiques. Et c'est le plus rigolo à faire.
C'est uniquement ça qui guide, par exemple, le passage à la couleur sur certaines thématiques, c'est de les rendre plus visibles, de les rendre plus tranchantes à l'image, ou est-ce qu'il y a un parti pris aussi de souligner, d'appuyer certains aspects? Parce que là, évidemment, je pense aussi au choix qui a été fait en 93 ou 94 par Spielberg dans la liste de Schindler, où il a un film intégralement en noir et blanc parce qu'il ne veut pas passer à la couleur pour ne pas trahir ses images d'archives, mais il y a un seul moment de couleur, c'est cette petite fille. Et son gilet rose que l'on suit depuis le ghetto jusqu'au camp. Voilà. Est-ce que ça sert aussi à appuyer des moments particuliers de la narration, la couleur?
Alors, pas oui et non, pas autant que ce qu'a fait Spielberg justement dans la liste de Schindler où c'est en fait, c'est un choc émotionnel, parce qu'on d'un coup on bascule totalement dans le point de vue de Schindler qui
Ouais.
regarde et qui remarque cette petite fille. Dans Deep, c'était plus ludique, c'était moins réfléchi en termes d'impact émotionnel. On était vraiment sur un jeu d'impact visuel et par exemple dans l'épisode 3 où j'alterne la couleur pour le coup et le noir et blanc pour montrer les flashbacks. Plus dans une réflexion, toute proportion gardée, parce que je vois déjà un milliard pas un milliard, mais des spectateurs me tomber dessus. Mais dans Oppenheimer, il y a ce jeu entre le noir et blanc pour le passé et la couleur, donc pour le présent, pardon, et le passé en couleur. Donc en fait, c'est toutes ces influences-là qui se sont un peu multipliées, mais il n'y a pas la force émotionnelle dans le choix esthétique qu'il y a dans la liste de Schindler.
Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour ce que tu viens de dire sur les milliards ou les millions de gens qui pourraient te reprocher ce parallèle avec Oppenheimer. Je ne vois pas pourquoi les scénaristes ou les réalisateurs américains pourraient, à longueur d'interview, se gargariser des influences qui les ont nourris au fil de leurs années, de leur enfance, de leur adolescence, de leur expérience professionnelle, et pourquoi les Français ne pourraient pas y avoir droit aussi, à partir du moment où c'est un hommage. C'est pas évidemment du plagiat, il n'y a aucune raison de s'en priver. Et justement, on va y venir dans un instant, mais tu as un parcours maintenant qui commence à être un peu établi dans le genre. Cette expérience que tu as eue en tant que réalisateur ou en tant que scénariste, est-ce qu'elle t'imposait cette, pour arriver à cette radicalité et à ce résultat qui te correspond, d'en prendre les rênes à tous les stades de la série, c'est-à-dire à l'écriture comme à la réalisation?
Oui. C'était un, mais ça a été un choix de carrière, en fait, à un moment donné. Depuis tellement longtemps, je veux faire de la réalisation. Enfin, c'était mon désir. J'ai commencé par ça, en fait. Hein. J'ai commencé par des courts-métrages quand j'étais jeune. Je suis passé en tant que scénariste parce qu'il fallait bien se nourrir. Enfin, d'abord écrivain, puis après scénariste, mais il fallait bien se, pour manger. Et puis, je suis revenu à la réalisation par un peu forcé sur une série qui s'appelle La Révolution pour Netflix, où ouais. Il y a eu de gros soucis dans le, au moment de, sur les épisodes 1 et 2 en particulier. Et en fait, je me suis retrouvé à devoir réaliser en équipe C, même pas la B, hein, je parle vraiment équipe C, et jusqu'à réaliser le prologue de la série, les 5 premières minutes de La Révolution. Et en fait, ça m'a remis le pied à l'étrier en un sens dans ma tête, sur, le, sur l'envie de réaliser, sur le contrôle de mes idées, sur, sur des projets aussi atypiques que Deep, je me, et puis le plaisir, j'avais envie de, d'aboutir ma vision, voilà, avec Scabo, hein, mais le, aujourd'hui, j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire j'étais scénariste, après producteur, j'ai arrêté d'être producteur, et la réalisation, en fait, est vraiment là où je m'épanouis le plus.
Ça veut dire que maintenant, les prochains projets vont être guidés à la fois par le regard du scénariste vers, ce, vers quoi il veut raconter et le réalisateur parce qu'il a envie de mettre en... Il n'y aura pas de retour en arrière, quoi.
Non. En tout cas, il y aura, enfin, il y aura des projets sur lesquels je serai que en tant que scénariste. Donc, je me mettrai au service de la production, de la chaîne et de, évidemment du réalisateur. Mais ça, c'est... C'est-à-dire que l'enjeu sera technique. Et de faire de mon mieux en écriture, mais pour des là j'ai beaucoup de projets qui sont totalement personnels et quand ils sont vraiment intimes et personnels, là je me vois plus les déléguer en fait.
C'est important pour garder le contrôle. On le sait, on l'a souvent mentionné avec les auteurs et les autrices qui sont venus dans ce studio, que parfois ils ont l'impression de se faire un peu subtiliser ce qu'ils avaient envie de faire et le rendu à l'image. Je le disais, Aurélien Molas, scénariste, créateur en tout cas, d'œuvres toujours assez singulières, assez particulières, parce qu'elles sont, elles touchent au genre, qui est un genre qui n'est pas forcément toujours exploité, le genre en tant que tel, c'est-à-dire le fantastique, ou en tout cas les, tout, tout ce qui tourne autour de quelque chose de... qui sort de la norme, qui sort de la normalité de la norme. J'ai choisi 3, évidemment, projets sur lesquels tu as pu collaborer, soit en tant que scénariste, soit en tant que réalisateur. Et le dernier, le premier qu'on va aborder maintenant, c'est le dernier pour lequel on t'avait reçu, il me semble. C'était à l'époque où il y avait encore, avec Canal, des fictions qui étaient des fictions beaucoup plus courtes, de 10 minutes. Ça s'appelait Red Creek. Et c'était un projet vraiment, encore une fois, singulier sur... un exorcisme, on est aux États-Unis, on est dans un milieu froid qui rappelle l'ambiance des films des frères Coen avec Lou Delage dans le rôle principal. Voici un petit extrait de cette ambiance de Red Creek.
Why are you here?
It's what I do. I'm good at it.
Why my daughter?
Beaucoup de gens pensent connaître la vérité sur la disparition d'Elisa Cox. Je ne vais pas te dire qu'ils se trompent ou qu'ils mentent. Je vais juste exposer ma version des faits.
There is an underground war that is being waged as we speak. You think I'm mad? I see it in your eyes.
Je ne te cacherai rien.
You think the devil doesn't exist, but he does.
Je ne mentirai pas.
Elisa!
Ce ne sera pas long et après tu n'entendras plus jamais parler de moi.
Son of a bitch.
À trois, tu sauras tout.
Quand on voyait cette série à l'époque, quand on avait reçu, je me suis dit, voilà, c'est bien les séries sur des plateformes de 10 minutes et tout, mais on aurait aimé effectivement le voir développer sur du long terme. C'était déjà compliqué à l'époque de proposer des choses comme ça, des choses un peu plus radicales.
Alors, ça Studio Plus, en fait, j'ai pu lancer... ma carrière, en fait, a commencé à s'installer, on va dire, dans le paysage avec Studio Plus
et Crime Time.
Et Arte. En fait, c'est les deux sont arrivés conjointement et c'est ce qui m'a permis. Il y a une première série en fait pour Studio Plus, une mini série comme ça de c'était 30x10 qui était le Crime Time, ouais. Qui avait été tourné au Brésil.
Qui était fantastique. Bah, je le dis, c'était absolument fantastique. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'histoire d'un reporter qui est prêt à tout pour faire carrière à la télévision et réussir, et qui comprend qu'en arrivant plus tôt que les autres sur les lieux du crime, voire même en anticipant, il peut en tirer de la gloire dans son métier de journaliste. Voilà, sans spoiler trop, mais c'était un peu ça, et on l'avait découvert à Série Mania, et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement audacieux.
Et cette série, en fait, m'a mis un peu sur la map, en fait, parce qu'elle a été c'est une des premières séries Studio Plus. Et elle avait été aux International Emmy Awards, etc. Et c'était des séries à très très petit budget, pareil. Et Red Creek était la suivante qu'on a fait avec Studio Plus parce qu'ils étaient contents donc de notre travail et de mon travail sur le. On était trois scénaristes sur Prime Time. Sur Red Creek, j'étais seul aux commandes au scénario et un jeune réalisateur, Antoine Bess, a réalisé donc la mini série.
Qui a travaillé, je crois, sur La Trêve en Belgique, si je me trompe pas. La Trêve ou Ennemi Public, je sais plus, l'une des deux, il me semble que c'est l'une des deux.
Il a fait Caro Nostra pour Slash, j'en suis sûr.
Aussi, il me semble. J'ai un doute sur Antoine, sur ces séries belges, mais effectivement Caro Nostra qui était sur une famille de cannibales sur Slash.
Ouais, et après là, il a réalisé son premier long métrage que j'avais développé en tant que producteur, qui s'appelle Oli avec Théo Christine, qui est un premier film remarquable. Et donc, oui, pour en revenir au sujet, Studio Plus m'a offert ça. Arte m'a offert la même chose en fait au même moment avec Maroni. Donc et ça c'était la nouvelle direction, c'était Olivier Botling qui était directeur des programmes sur du développement sur la chaîne et qui pareil m'a laissé aller dans cette direction là. Et après Olivier Abou, le réalisateur, s'en est emparé. Donc en fait il y a eu un moment, il y a eu un âge d'or pour moi où j'ai pu explorer des thématiques, en tout cas des pas de côté narratifs. J'ai eu de la chance, en fait, c'était une période plus simple pour ça. Mais sur les chaînes, par exemple, j'ai jamais proposé de projet à France Télévisions, j'ai jamais proposé de projet à 6 et TF1, j'ai eu deux développements, mais qui n'ont pas abouti. Donc, en fait, je suis resté dans un univers en fait très canal compatible, Netflix et Arte en fait. Donc, des chaînes, plateformes qui ont une ADN en tout cas de tenter des choses en fait, d'hybrides, un peu plus hybrides dans leur approche. Canal évidemment avec des chefs-d'œuvre comme Les Revenants aux États-Unis pour Stranger Things pour Netflix. Et Arte, il y a eu aussi Miracolo, il y a eu déjà en fait toutes ces recherches-là. Il y avait une série avec Xavier Palu aussi, écrite par Cook Dong Trang. Donc il y avait déjà cette volonté en fait de
partir sur des chemins différents, oui.
Exactement. Et donc j'étais dans cette lignée-là en fait, j'ai eu la chance d'arriver au bon moment, on va dire.
Et petit clin d'œil, puisqu'on parlait d'Olivier Abou tout à l'heure... qui a été important évidemment, petit clin d'œil, puisque Alice Descostes, qui est dans Deep, faisait partie de la distribution de la fantastique mini-série Les Papillons Noirs, réalisée par Olivier Abou, où elle jouait une serial killeuse absolument redoutable. Elle était brillante dans cette série de Abou et Merle, qui avaient travaillé pour Arte, et c'était vraiment quelque chose de très réussi. Une photo qu'on va voir apparaître, mais on l'a déjà mentionné rapidement, mais moi je voudrais revenir quand même sur cette aventure, parce que pour moi, et tu l'as dit, les premiers épisodes de La Révolution ont été un peu compliqués et tout, mais moi je retiens quand même une grosse déception, non pas autour du résultat de La Révolution, mais autour de son traitement. C'est toujours la même chose, effectivement, avec Netflix, on a l'impression qu'ils ont besoin de communiquer qu'il y a un succès, qu'une série est un succès pour faire de la com, uniquement faire de la com. On en vient à se demander si c'est vraiment le cas, puisque 9 fois sur 10, les séries françaises sont annulées derrière. Et dans le cas de La Révolution, moi, j'ai aimé ce traitement qui n'a pas de plus à tout le monde, mais ce traitement un peu différent, un peu radical, qui explique la Révolution française par le prisme d'un virus qui infecte les nobles et qui les pousse à se rebeller et à trucider le peuple, qui du coup, en réaction, va mener le combat vers la Révolution. Et c'est vrai que moi, j'avais adoré ce traitement un peu radical, à cheval avec la série de vampires, et qui déboulait sur un final en saison 1 qui promettait des choses très audacieuses avec le traitement des personnes... infecté à la cour de Louis XVI. Enfin, moi, j'avais adoré tout ce traitement-là. Donc, et c'est vrai que c'est une déception de voir qu'il n'y a pas pu avoir de suite.
Bah, la Révolution, c'est une expérience un peu... à la fois, une expérience formidable, parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris sur mon métier. Une expérience douloureuse à bien des niveaux. Et je ne parle pas uniquement de la réception critique, en fait. Hein, c'est que... en fait, l'ADN de la série telle qu'elle l'avait, ça conduit aussi à la réalisation. Ça, tu vas comprendre pourquoi. C'est-à-dire que ma vision, en tout cas, de la Révolution, étant donné que le pitch est quand même totalement improbable et qu'il est difficile de faire admettre le fantastique, ben, j'avais le souhait de faire une série qui avance lentement dans le... plus proche de l'aliéniste de Caleb Carr. Donc ça, c'était pour l'ambition. Et sur l'ambition formelle, je voulais une série extrêmement nerveuse, caméra au point, en fait, qui traite l'époque dans un côté très charnel, beaucoup plus viscéral et plus drôle aussi, en fait. Et tout ça, c'est pour ça que pour moi, il y a un deuil, c'est que tout ça a progressivement, au fur et à mesure du développement et du tournage, disparu, pour arriver à quelque chose qui est plus proche d'un clip de Mylène Farmer que de la vision initiale pour moi. Donc en fait, la série devient pompeuse, en fait, un peu lourde, prétendue. Même les dialogues, en fait, sonnent comme s'ils sont dits, là où en fait, il y a des dialogues qui sont comme ceux de Deep, hein, donc en fait, pour moi, qui sont de la vitesse, du ping-pong, il fallait que ça soit naturel. Je voyais plus presque un prophète dans le traitement visuel, c'est-à-dire quelque chose où on est collé au personnage, on a l'impression d'être à la frontière du documentaire pour pouvoir faire passer ce pitch improbable. Et je trouvais qu'il y avait un côté plus joyeux, moins... Là, moi, quand je revois la série, je trouve qu'elle se prend excessivement au sérieux. Et voilà, pour moi, ça a toujours été un... Ce qui fait que j'ai compris les critiques. Après, j'ai reçu des... C'est paradoxal parce que la série a quand même, en fait, plutôt bien marché. C'est une série qui se maintient. Ça, c'est le data expert de Netflix qui me l'a écrit. C'est une série qui se maintient. Moi, je pense que c'est une série totalement imparfaite, mais qui...
Mais qui a pu se perfectionner avec le temps.
Moi, c'est tellement... C'est tellement douloureux, la Révolution, en fait, dans le même... En fait, c'était... Mon associé de l'époque, et moi, on a été projetés un peu comme les petits golden boys du milieu, parce qu'on était une micro-boîte, on n'était pas encore racheté par UGC à ce moment-là. Et pour nous, c'était une série OCS à l'origine. Pour en revenir, ouais. D'ailleurs, le pont avec Deep est quand même plutôt rigolo. C'est-à-dire que moi, j'avais écrit la Bible pour vendre une série OCS, en fait. Donc pour moi, c'était... Il y avait de l'ordre de la comédie, il y avait exactement ça. Et en fait, on l'envoyait par Netflix un peu...
Au hasard, et ils ont pris.
Un peu par hasard, c'était juste on voulait se faire remarquer, en fait. Donc qu'ils se disent, ah tiens, ils bossent bien, ils font des grosses bibles sérieuses, peut-être qu'on va leur confier un tout petit budget, un tout petit projet. Et c'est comme ça que c'est... Et en fait, ça s'est enclenché. On a eu 6 conseillers de programme différents sur la Révolution, hein, en 7 mois de développement d'écriture, avec des deadlines... 7 personnes qui avaient des avis totalement différents sur qu'est-ce qu'était la série. Des choses qui ont été rajoutées, il fallait rajouter du fantastique, il fallait rajouter du vaudou, il fallait rajouter... puisque c'est l'une des vastes questions aujourd'hui dans le débat sur le wokisme, est-ce qu'il fallait glisser là-dedans, rajeunir les personnages, enfin bref, ça a été un... Voilà, mais je pense que je n'étais pas encore assez aguerri, ouais. En toute honnêteté, donc j'ai ma part de responsabilité aussi. Je n'étais pas assez aguerri pour affirmer une vision ou pour me détacher de la série. Donc j'étais dans un entre-deux un peu bâtard qui au final se ressent dans la série. Pour moi.
Et j'en profite pour saluer Marie-Lou Assiou, qui était l'héroïne de la série, qui était géniale, ouais. Et voilà, et que j'aime beaucoup, et que j'aimerais bien qu'on revoie un petit peu plus. On n'aura pas le temps de revenir sur la troisième série, parce qu'on arrive au terme de cette émission, mais je voudrais quand même en voir quelques images, parce que ça va m'amener à la dernière question de notre rendez-vous. Cette fois-ci, on est en 2020, on est sur Arte. Il y a eu Maroni, effectivement, mais il y a eu une autre série proposée sur Arte, qui était là aussi une proposition de genre. On va en voir un tout petit extrait pour m'amener à ma dernière question avec Aurélien Molas. Dallas, qui est notre invité pour Deep sur Canal Plus Ciné Plus OCS. Regardez.
Sur cette île, tout le monde a oublié. C'est lorsqu'on oublie que l'histoire se répète.
Capitaine Garriga, on a reçu un appel des insulaires. Les gardes-côtes ont signalé deux disparitions inquiétantes. Ils ont trouvé une femme à bord.
Vous la connaissez ?
C'est quelqu'un de dangereux.
Trois morts suspectes en peu de temps, difficile d'y voir une coïncidence.
La femme que vous avez trouvée sur le bateau, j'ai la traque depuis 10 ans.
Mais de bien avoir quelqu'un sur cette île qui sait qui je suis quand même.
Parler des sirènes avec le prisme, là aussi, d'un aspect un peu réaliste, un peu film noir, un peu... moi, c'était une proposition qui m'avait vraiment beaucoup plu à l'époque. Ça s'appelait Une île. C'était une mini-série pour Arte, avec notamment Laetitia Casta. Et j'ai oublié le nom de cette formidable comédienne qui joue la jeune
Noé Habitat.
Noé Habitat, évidemment, que j'avais rencontré, qui est une formidable comédienne. Là aussi, une proposition singulière. Est-ce que... Ça va être quoi la suite pour... Oui.
Il faut juste rendre à César ce qui appartient à César.
Avec
c'est une idée originale de Simon Moutaïrou,
ouais,
qui est le réalisateur génial de Ni chaîne ni maître, qui est sorti au cinéma. Et ensuite, c'était Gaïa Guasti, qui était ma co-autrice, qui a continué à développer la série. Et je suis arrivé en troisième position, en fait. C'est-à-dire bien plus tard, la série était déjà vendue à Arte, déjà développée. Donc, moi, j'ai insufflé la partie plus polar, ouais, on va dire sombre, sur le concept. Hein, ça, c'était Simon. Sur le traitement plus sensuel et le rapport aux femmes, etc., c'est Gaïa. Et sur la partie plus âpre, polar, c'était ma part.
Et donc, ben justement,
en fait, dans l'ordre, il faut rendre à César, et à César les deux, c'est-à-dire c'est Simon, Gaïa, et ensuite moi je suis arrivé derrière.
Mais on reconnaît comme un peu ta patte, en tout cas dans cette partie, effectivement là, c'est-à-dire là, ce côté avec cette partie polar, mais avec ce côté très réaliste aussi. Ça va être quoi la suite pour toi de repartir dans des choix radicaux comme la Révolution avec ses imperfections, mais avec quelque chose d'un propos assumé ou deep, avec son traitement visuel extrêmement léché, extrêmement soigné, et qui va très loin, ou de revenir à quelque chose de plus entre deux, c'est-à-dire comme Maroni, qui était formidable avec Stéphane Caillard notamment, et puis, ou encore Une île, comme on vient de le voir.
Bah, la prochaine étape, c'est si tout se passe bien, c'est mon long métrage qui est actuellement en casting, voilà, qui se fait avec un producteur formidable qui est Julien Madon,
ouais,
chez Yann Fédération, qui est aussi le producteur en série de BRI et de,
ah oui,
de IGN qui va arriver sur Netflix. C'est une boîte formidable et pour l'instant on est en casting, donc si tout se passe bien, c'est une adaptation d'Edgar Allan Poe, donc on va être toujours dans le genre hybride et à la frontière, mais c'est pour le cinéma. Et en série j'ai deux projets que j'ai pas encore fait lire. Il y en a un qui est une comédie que j'aimerais bien faire Deep 2, on sait jamais, tu vois, juste pour rigoler.
Soyons fous.
Mais ça serait assez rigolo. Et une autre est plus proche de Maroni, comme tu l'évoquais, c'est-à-dire vraiment à la frontière entre le questionnement du fantastique, pas fantastique, structuré. En fait, c'est un hommage et une revisite de X-Files, parce que qui est une série que j'aime énormément. Et je trouve qu'il y a quelque chose à moderniser aujourd'hui, mais très français. L'inscrire dans du local content, c'est-à-dire pas les extraterrestres, mais voilà, j'ai une piste là-dessus. Donc c'est une série qui... mais pour l'instant, je ne l'ai fait lire à personne. Donc là, c'est une exclusivité absolue.
On croise les doigts pour toi, parce que je le dis régulièrement, et ça, c'est évidemment, tu nous parles d'X-Files, forcément, ça nous parle et ça nous happe, mais je le dis souvent, et je trouve que c'est... La grande leçon que je retiendrai de ces 10 dernières années de télévision, c'est que on a des vraies signatures maintenant en télé qui arrivent à la création de séries françaises, des gens dont on commence à remarquer l'écriture et le travail. Il y a des auteurs qui se dessinent, des réalisateurs qui se dessinent. On l'a souligné ici, David Oreck, Fanny Riedberger, ou encore même Alexandre Laurent dans un certain registre, Samuel Bodin, toute cette génération qui a émergé. Et je trouve que c'est ce qui est fort, c'est que tu en fais aussi partie. On sait, quand on voit un travail, en tout cas quand on nous apprend qu'Aurélien Molas est à la manette sur une série, qu'on va voir quelque chose qui va, en tout cas nous promettre du changement et que on a envie d'aller s'y frotter quoi qu'il en soit et quel que soit le résultat. Et c'est ça qui nous fait du bien. Donc forcément qu'on surveillera les prochains projets cinéma ou télévision avec grand plaisir.
Bah, merci infiniment, vraiment. Et en tout cas, j'essaierai de continuer à avancer, à progresser. On apprend tout le temps, c'est ça qui est chouette dans ce métier, c'est la bonne chose.
Exactement. Je rappelle, Deep, c'est le mardi sur Ciné Plus OCS. Il y a 8 épisodes de 30 minutes pour cette saison 1. Et que, allez-y, la série a été présentée à Cannes Série et à Creativity cette année. Et visiblement, ça a plu effectivement à chaque fois. La salle était pleine, on était ensemble à Cannes Série quand ça s'est passé. Et donc voilà, ça fait partie des belles propositions. Merci beaucoup Aurélien d'avoir
merci
répondu
merci
depuis Bordeaux à cette interview. Merci à Isabelle et aux équipes de Canal, Delphine Huchet, d'avoir permis à cette émission de se faire. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à Maxime qui était à la réalisation. Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de la Loi des séries. Merci Aurélien.
Merci Victor.